Alors j'avais essayé la dernière fois de vous montrer comment, autour de la réaction nobiliaire, il y avait eu non pas exactement invention du discours historique, mais plutôt éclatement d'un discours historique préalable. Éclatement d'un discours historique qui avait eu jusque-là, en gros, pour fonction de, comme disait Pétrarque, chanter la louange de Rome, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'un discours historique qui jusque-là avait été intérieur, je crois, au discours de l'État sur lui-même, un discours historique qui avait eu pour fonction de manifester le droit de l'État, de fonder sa souveraineté, de raconter sa généalogie ininterrompue et d'illustrer par des héros, par des exploits, par des dynasties, le bien fondé du droit public. Bon, cet éclatement de la louange de Rome à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle, cet éclatement il se produit de deux façons. D'une part, par le rappel, la réactivation de ce fait de l'invasion, que déjà, vous vous souvenez, l'historiographie protestante du XVIe siècle avait objecté à l'absolutisme royal. On rappelle donc l'invasion, on introduit cette grande rupture dans le temps. L'invasion des Germains au 5e, 6e siècle, eh bien, c'est le passe-droit, c'est le moment de la rupture du droit public. Le moment où les hordes qui déferlent de Germanie mettent un terme à l'absolutisme romain. Bon, première rupture. Mais l'autre rupture, l'autre principe d'éclatement, il est je crois plus important, c'est celui que j'avais souligné en terminant la dernière fois, c'est-à-dire l'introduction d'un nouveau sujet d'histoire dans ce double sens qu'il s'agit d'un nouveau domaine d'objet pour le récit historique et il s'agit en même temps d'un nouveau sujet parlant dans l'histoire. Ce n'est plus l'État parlant lui-même, c'est quelque chose d'autre parlant de soi, et ce quelque chose d'autre qui parle dans l'histoire et qui se prend pour objet de son récit historique, eh bien c'est, je crois, cette espèce d'entité nouvelle qu'est la nation. La nation, entendue bien sûr au sens large du mot, je tâcherai d'y revenir soit cette fois-ci, soit la prochaine fois, parce que c'est évidemment autour de cela, de cette notion à partir de quoi vont rayonner ou vont dériver des notions comme celle de nationalité, de race, de classe, etc. Cette notion de nation doit être entendue au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle encore dans un sens très large. Bon, c'est vrai que vous trouverez dans l'encyclopédie, une définition, je dirais, étatique de la nation. Définition étatique de la nation, puisque les encyclopédistes donnent quatre critères à l'existence de la nation. Premièrement, ça doit être une grande multitude d'hommes. Deuxièmement, ça doit être une multitude d'hommes qui habitent dans un pays défini. Troisièmement, ce pays défini doit être circonscrit par des frontières. Et quatrièmement, cette multitude d'hommes ainsi établis à l'intérieur de frontières doit obéir à des lois et à un gouvernement unique. Vous avez donc là une définition, en quelque sorte une fixation de la nation, d'une part dans les frontières de l'État et deuxièmement dans la forme même de l'État. Mais je crois que c'est une définition polémique qui précisément visait à, sinon réfuter, du moins exclure, la définition large qui régnait à ce moment-là et qu'on trouve aussi bien dans les textes venant de la noblesse que dans ceux venant de la bourgeoisie et qui faisait dire que la noblesse, c'était une nation, que la bourgeoisie, c'était aussi une nation. Tout ça aura une importance capitale sous la Révolution, ça aura une importance capitale en particulier dans le texte de Sieyès sur le tiers-État que j'essaierai de vous commenter. Bon, mais cette notion vague, floue, si vous voulez, de nation, mobile, cette idée d'une nation qui justement n'est pas arrêtée à l'intérieur de frontières, mais qui est au contraire une sorte de masse d'individus mobiles d'une frontière à l'autre, à travers les États, sous les États, à un niveau infra-étatique, cette notion, vous la retrouverez encore longtemps au XIXe siècle, chez Augustin Thierry, chez Guizot, etc. Bon. Alors, on a donc un nouveau sujet d'histoire, et j'avais essayé de vous montrer comment et pourquoi c'était la noblesse qui avait introduit ainsi dans la grande organisation étatique du discours historique, ce principe d'éclatement qu'était la nation comme sujet-objet de la nouvelle histoire. Bon, eh bien maintenant, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle histoire? En quoi est-ce qu'elle consiste? Et comment est-ce que on la voit s'instaurer au début du XVIIIe siècle? Je crois que la raison pour laquelle c'est bien dans ce discours de la noblesse et de la noblesse française que l'on voit se déployer ce nouveau type d'histoire, la raison en est, je crois, apparaît clairement quand on compare avec, disons, ce qui était le problème anglais au XVIIe siècle, un siècle auparavant ou à peu près. Parce qu'au fond, l'opposition parlementaire ou l'opposition populaire anglaise, fin XVIe, début du XVIIe siècle, avait au fond à résoudre un problème relativement simple. Il s'agissait pour elle de montrer quoi? Bien, de montrer qu'il y avait dans la monarchie anglaise deux systèmes opposés, deux systèmes de droit et en même temps deux nations. D'un côté, le système de droit correspondant à la nation normande. Dans ce système de droit, on trouve bloqué en quelque sorte l'une avec l'autre l'aristocratie et la monarchie. Cette nation est une nation qui porte en elle un système de droit qui est celui de l'absolutisme, et elle a imposé ce système de droit par quoi? Par la violence de l'invasion. Donc, monarchie et aristocratie, droit de type absolutiste, invasion. Et il s'agissait de faire valoir contre cet ensemble un autre, qui était celui du droit saxon, droit des libertés fondamentales, et qui se trouvait être à la fois le droit des habitants les plus anciens, d'une part, et en même temps le droit revendiqué eh bien, par les plus pauvres, en tout cas par ceux qui n'appartenaient ni à la famille royale, ni aux familles aristocratiques. Donc, deux grands ensembles, et il s'agissait de faire valoir le plus ancien et le plus libéral au profit du plus nouveau qui avait apporté avec l'invasion l'absolutisme. Bon, problème simple. Celui de la noblesse française, un siècle après, fin 17e, début du 18e siècle, est évidemment un problème beaucoup plus compliqué puisqu'il s'agit pour elle de lutter sur deux fronts. Il s'agit pour elle, d'une part, de lutter contre la monarchie et ses usurpations de pouvoir, et il s'agit d'autre part de lutter contre le tiers-État qui profite justement de la monarchie absolue pour empiéter de son côté et à son profit sur les droits de la noblesse. Donc lutte sur deux fronts, et lutte sur deux fronts qui ne peut pas être menée de la même façon sur l'un et sur l'autre, puisque contre la monarchie, la noblesse va faire valoir quoi? Eh bien, elle va faire valoir contre l'absolutisme du monarque les libertés fondamentales qui sont censées être celles du peuple germain ou franc qui a envahit la Gaule à un moment donné. Donc, contre la monarchie, faire valoir la liberté. Mais contre le tiers état, qu'est-ce qu'on va faire valoir? Eh bien, on va faire valoir, au contraire, les droits illimités dus à l'invasion. C'est-à-dire que d'un côté, il faudra être, en quelque sorte, les vainqueurs absolus dont les droits ne sont pas limités, mais d'un autre côté, contre la monarchie, il va falloir faire valoir un droit qui est celui de liberté fondamentale, en quelque sorte quasi constitutionnelle. Bon, d'où la complexité du problème et d'où, je crois, le caractère infiniment plus élaboré de l'analyse que l'on trouve chez Boulainvilliers, si on la compare à celle qu'on trouvait quelques dizaines ou vingtaines d'années auparavant, enfin, plusieurs dizaines d'années auparavant. Bon. Comment est-ce que Boulainvilliers... Je le prends un petit peu, si vous voulez, à titre d'exemple. En fait, il s'agit de tout un noyau, toute une nébuleuse d'historiens qui, en gros, de la noblesse, qui, en gros, commencent à formuler leur théorie dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Le comte d'Estaing, par exemple, vers 1670, je crois, et ça va aller jusqu'au comte du Guanancé, ou à la limite jusqu'au comte de Montlosier, au moment de la Révolution, au moment de l'Empire et de la Restauration. Mais Boulainvilliers, donc, dont le rôle est important, puisque c'est lui qui a essayé de retranscrire les rapports des intendants faits pour le duc de Bourgogne dont vous parlez la dernière fois, Boulainvilliers peut nous servir, si vous voulez, de repère ou de profil général, valant comme ça provisoirement un petit peu pour tout le monde. Bon, comment est-ce qu'il fait son analyse ? Première question, quand les Francs pénètrent en Gaule, qu'est-ce que, selon Boulainvilliers, ils trouvent devant eux ? Ils ne trouvent pas, évidemment, cette patrie perdue où ils auraient voulu revenir à cause de sa richesse et de sa civilisation, comme le voulait, vous avez le vieux récit historico-légendaire du XVIIe siècle, selon lequel les Francs, Gaulois ayant quitté leur patrie, auraient souhaité, à un moment donné, y revenir. La Gaule que décrit Boulainvilliers, ce n'est pas du tout une Gaule heureuse, un peu arcadienne, qui aurait oublié les violences de César dans la fusion heureuse d'une unité nouvellement constituée. Ce qu'ils trouvent, les Francs, quand ils entrent en Gaule, c'est une terre de conquête. Une terre de conquête, ce qui veut dire quoi ? Eh bien que l'absolutisme romain, le droit régalien instauré ou impérial instauré par les Romains, n'y est pas du tout dans cette Gaule un droit acclimaté, accepté, reçu, une sorte de droit qui ferait corps avec la terre et le peuple. Ce droit y est un fait de conquête, la Gaule est assujettie, le droit qui y règne n'est aucunement une souveraineté consentie, c'est un fait de domination. Et c'est le mécanisme même de cette domination qui a duré tout au long de l'occupation romaine, c'est ce mécanisme que Boulainvilliers essaie de repérer en faisant valoir un certain nombre de phases. D'abord, les Romains, entrant en Gaule, auraient eu pour premier soin de quoi faire ? Eh bien, de désarmer, bien sûr, cette aristocratie guerrière qui avait été la seule force militaire qui se soit réellement opposée à eux, désarmer la noblesse, l'abaisser aussi politiquement et économiquement, et ceci par une élévation, ou en corrélation en tout cas, avec une élévation artificielle du bas-peuple, qu'on flatte des Boulainvilliers de l'idée d'égalité. C'est-à-dire que par un procédé propre à tous les despotismes, et qu'on avait vu d'ailleurs se développer dans la République romaine depuis Marius jusqu'à César, eh bien on fait croire aux inférieurs qu'un peu plus d'égalité à leur profit donnera beaucoup plus de liberté à tous, et en fait, grâce à cette égalitarisation, on aboutit en fait à un gouvernement despotique. De la même façon, les Romains ont rendu la société gauloise égalitaire en abaissant la noblesse, en élevant le bas peuple, et ils ont pu ainsi établir leur propre césarisme. C'est la première phase, qui se conclut avec Caligula par le massacre systématique des anciens nobles gaulois qui résistaient à la fois aux Romains et à cet abaissement caractérisait leur politique. Et puis, à partir de là, on voit les Romains se constituer une certaine noblesse dont ils avaient précisément besoin, une noblesse non pas militaire qui aurait pu s'opposer à eux, mais une noblesse administrative qui aurait pu, qui était destiné à les aider dans leur organisation de la Gaule romaine et surtout dans tous les procédés par lesquels ils vont puiser dans la richesse de la Gaule et assurer une fiscalité profitable à eux. Se crée ainsi une nouvelle noblesse, noblesse civile, noblesse juridique, noblesse administrative, qui a pour caractère, premièrement, une pratique aiguë, fine et bien maîtrisée du droit romain, et deuxièmement, la connaissance, bien sûr, de la langue romaine. C'est autour de la connaissance de la langue et la pratique du droit qu'une nouvelle noblesse apparaît. Bon, cette description permet de dissiper le vieux mythe du XVIIe siècle de la Gaule romaine heureuse et arcadienne, eh bien, réfutation de ce mythe, dissipation de ce mythe, c'est évidemment une manière de dire au roi de France, si vous vous réclamez de l'absolutisme romain, en fait vous ne vous réclamez pas d'un droit fondamental et essentiel sur la terre de la Gaule, vous vous réclamez d'une histoire précise et particulière dont les procédés ne sont pas particulièrement honorables. En tout cas, c'est bien à l'intérieur d'un mécanisme d'assujettissement que vous vous inscrivez. Et d'ailleurs, cet absolutisme romain qui a été implanté par un certain nombre de mécanismes de domination, eh bien, il a été finalement renversé, balayé, vaincu par les Germains, et moins d'ailleurs par les hasards d'une défaite militaire que par la nécessité d'une dégradation interne. Et c'est là que commence, si vous voulez, le second volet de l'analyse de Boulainvilliers, c'est que c'est le moment où il analyse quels ont été les effets réels de la domination romaine sur la Gaule. Car les Germains ont trouvé, ou les Francs ont trouvé en entrant en Gaule, bien sûr, une terre qui était l'armature militaire de la Gaule. Désormais, ils n'avaient plus rien, les Romains, pour pouvoir défendre la Gaule contre les invasions qui venaient de l'autre côté du Rhin. Pour défendre cette terre gauloise qu'ils occupaient, qu'est-ce qu'ils ont été obligés de faire, puisqu'il n'y avait plus cette noblesse, de faire appel à des mercenaires. Des mercenaires, c'est-à-dire des gens qui ne se battaient pas pour eux-mêmes ou pour défendre leur terre, mais qui se battaient pour une solde. L'existence d'une armée mercenaire, l'existence d'une armée soldée, implique quoi ? Implique bien sûr une fiscalité énorme. Il va donc falloir prélever sur la Gaule, non seulement les mercenaires, mais de quoi les payer. D'où deux choses. Premièrement, augmentation considérable des impôts en monnaie, et deuxièmement, surhaussement de ces monnaies, ou encore, comme nous dirions maintenant, dévaluation. D'où un double phénomène. D'une part, la monnaie perd de sa valeur à cause de ces dévaluations, et plus curieusement encore, après cela, la monnaie devient de plus en plus rare. Devenant de plus en plus rare, cette absence de monnaie va entraîner un ralentissement des affaires et un appauvrissement général. C'est dans cet état de désolation globale que la conquête franque va se produire, ou plutôt qu'elle va être possible. La perméabilité de la Gaule à l'invasion franque est liée à cette ruine du pays dont le principe était donc l'existence de ces troupes mercenaires. Bon, sur ce type d'analyse, je reviendrai un peu plus tard, mais ce qui est intéressant, je crois, et qu'on peut signaler tout de suite, c'est ceci. C'est que vous voyez, l'analyse que fait Boulainvilliers n'est plus du tout du même type que celle qu'on pouvait trouver encore quelques dizaines d'années auparavant, quand la question posée était essentiellement celle du droit public, c'est-à-dire quand la question posée était celle-ci: est-ce que l'absolutisme romain, avec son système de droit, subsiste bien en droit, même après l'invasion franque? Est-ce que les Francs ont légitimement ou non aboli le type de souveraineté romaine? C'était ça le problème historique que l'on posait en gros au XVIIe siècle. Maintenant, le problème pour Boulainvilliers n'est plus du tout de savoir si le droit reste ou ne reste pas, s'il est du droit d'un droit de se substituer à un autre droit. Ce n'est plus du tout ces problèmes-là qui sont posés. Le problème n'est pas de savoir, au fond, si le régime romain était légitime ou pas, si le régime franc était légitime ou pas. Le problème, c'est de savoir quelles ont été les causes de la défaite, les causes internes de la défaite, c'est-à-dire en quoi le gouvernement romain, légitime ou pas, après tout, c'est pas ça le problème, en quoi il était logiquement absurde, ou si vous voulez, politiquement contradictoire. Ce fameux problème des causes de la grandeur et de la décadence des Romains, qui va être un des grands poncifs de la littérature historique ou politique du XVIIIe siècle, et que Montesquieu reprendra après Boulainvilliers, ce problème, il a un sens très précis. C'est qu'on précipite là, pour la première fois, une analyse de type économico-politique, là où il n'y avait eu jusque-là que le problème du passe-droit, que le problème du change du droit, que le problème d'un changement de droit absolutiste en un droit de type germanique, c'est-à-dire d'un tout autre modèle. C'est là que le problème des causes de la décadence des Romains devient le modèle même d'un nouveau type d'analyse historique. Bon, voilà, si vous voulez, pour un premier ensemble d'analyses que l'on peut trouver chez Bonavidier. Je systématise un peu tout ça, mais enfin, faut essayer d'aller un peu vite. Deuxième problème, si vous voulez, deuxième groupe de problèmes, après celui de la Gaule et des Romains, je prendrai comme exemple des analyses de Boulainvilliers, celles qu'il propose à propos des Francs. Qui sont ces Francs qui entrent en Gaule? C'est-à-dire, problème réciproque de celui dont je viens de parler, qu'est-ce qui fait la force de ces gens, à la fois incultes, barbares, relativement peu nombreux, et qui ont pu ainsi, effectivement, entrer en Gaule et détruire le plus formidable des empires que l'histoire ait connu jusque-là. Bon, il s'agit donc de montrer la force des Francs en face de la faiblesse des Romains. Ce qui fait la force des Francs, d'abord, eh bien, c'est qu'ils bénéficient, eux, de ce dont les Romains avaient cru devoir se passer, c'est-à-dire l'existence d'une aristocratie guerrière. La société franque est tout entière organisée autour de ces guerriers qui sont au fond le seul peuple franc, bien qu'il y ait derrière eux toute une série de gens qui sont des serfs ou en tout cas des serviteurs qui dépendent, des clients, etc. Mais le peuple germain, il est composé des leudes, des leutes, les gens, et ces gens sont tous des gens d'armes. Au contraire donc des mercenaires. Et d'autre part, ces gens d'armes, cette aristocratie guerrière, bien sûr, elle se donne un roi, mais elle se donne un roi qui, d'une part, n'a pour fonction que de régler des différends ou des problèmes de justice en temps de paix. Les rois ne sont que des magistrats civils et rien d'autre. Et de plus, ces rois sont choisis d'un consentement commun par le groupe des leutes, par le groupe des gens d'armes. Il n'y a qu'au moment des guerres, lorsque on a besoin d'une organisation forte et d'un pouvoir unique, il n'y a qu'au moment des guerres que, à ce moment-là, on se donne un chef qui, dans la chefferie, obéit à de tout autre principe, dont la chefferie est absolue. Ce chef, c'est un chef de guerre, qui n'est pas forcément le roi de la société civile, mais qui, dans certains cas, peut l'être. Quelqu'un comme Clovis, d'où son importance historique, était à la fois l'arbitre civil, le magistrat civil choisi pour régler les différends, et puis il a été aussi le chef de guerre. En tout cas, on a donc une société où le pouvoir est minimal, au moins en temps de paix, et par conséquent, la liberté maximale. Or, qu'est-ce que c'est que cette liberté dont bénéficient les gens, cette aristocratie guerrière? Cette liberté, ce n'est pas du tout une liberté d'indépendance, ce n'est pas du tout cette liberté par laquelle, fondamentalement, on respecte les autres. La liberté dont bénéficient les guerriers germains, c'est essentiellement la liberté de l'égoïsme, de l'avidité, du goût de la bataille, du goût de la conquête et de la rapine. La liberté de ces guerriers, ce n'est pas celle de la tolérance et de l'égalité pour tous, c'est une liberté qui ne peut s'exercer que par la domination. C'est-à-dire que cette liberté, loin d'être une liberté du respect, est une liberté de la férocité. Et un des successeurs de Boulainvilliers, Fréré, faisant l'étymologie du mot franc, dira que le mot franc ne veut absolument pas dire libre au sens où nous l'entendons maintenant, que franc veut dire essentiellement féroce, férox, c'est-à-dire que ce mot a, pour désigner, ce mot franc, a exactement les mêmes connotations que le mot férox latin, il en a tous les sens, dit Fréré, favorable et défavorable, il veut dire fier, intrépide, orgueilleux, cruel. Et c'est ainsi que commence ce fameux grand portrait du barbare, ce fameux grand portrait du barbare qu'on va retrouver jusqu'à la fin du XIXe siècle et bien entendu chez Nietzsche, dans lequel la liberté sera équivalente à une férocité qui est goût du pouvoir et avidité de dominer, incapacité de servir, mais désir toujours prêt d'assujettir. Mœurs impolies et grossières, haine pour le nom, la langue et les usages romains, amateur de liberté, vaillant, léger, infidèle, avide de gain, impatient, inquiet, etc. Ce sont les épithètes que Boulainvilliers et ses successeurs utilisent pour décrire ce nouveau grand barbare blond qui ainsi fait à travers leurs textes leur entrée solennelle dans l'histoire européenne. Je veux dire dans l'historiographie européenne. Ce portrait de la grande férocité blonde des Germains, ce portrait, il permet quoi? Il permet deux choses, je crois. Premièrement, il permet d'expliquer comment les guerriers francs entrant en Gaule, comment ces guerriers francs ont pu et ont dû nécessairement refuser toute assimilation avec les gallo-romains et en particulier tout assujettissement à ce droit impérial. Ils étaient beaucoup trop libres, je veux dire, ils étaient beaucoup trop fiers, arrogants, etc., pour ne pas empêcher le chef de guerre de devenir souverain au sens romain du mot. Ils étaient beaucoup trop avides dans leur liberté de conquête et de domination pour ne pas s'emparer eux-mêmes, à titre individuel, de la terre gauloise. De sorte que leur roi, qui était en bien leur chef de guerre, ce roi n'est pas devenu par la victoire des Francs propriétaire de la terre de Gaule, mais chacun des guerriers a bénéficié lui-même et directement de la victoire et de la conquête, il s'est réservé une part de la terre de Gaule. C'est lointainement, je passe sur tous les détails qui sont compliqués dans l'analyse de Boulainvilliers, le début, si vous voulez, de la féodalité. Chacun a pris effectivement un morceau de terre. Le roi n'avait que sa terre à lui. Aucun droit, par conséquent, du type de la souveraineté romaine sur l'ensemble de la terre de Gaule. Et devenant ainsi propriétaire indépendant et individuel, il n'y avait bien sûr aucune raison pour qu'ils acceptent au-dessus d'eux un roi qui serait en quelque sorte l'héritier des empereurs romains. Et c'est ici que commence l'histoire du vase de Soissons, ou plutôt encore là, l'historiographie du vase de Soissons. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du vase de Soissons que vous avez sans doute encore appris dans vos manuels scolaires? C'est une invention de Boulainvilliers et ses prédécesseurs ou successeurs, où ils ont, dans Grégoire de Tours, piqué cette histoire qui va ensuite être un des lieux communs de discussions historiques infinies. Lorsque, après je ne sais plus quelle bataille, Clovis répartit le butin, ou plutôt préside en tant que magistrat civil à la distribution du butin, vous savez que devant un certain vase, il dit « celui-là, je le voudrais ». Mais que un guerrier se lève et dit « tu n'as pas droit à ce vase, car tu as beau être roi, tu partageras le butin avec les autres, tu n'as aucun droit de préemption, tu n'as aucun droit de possession première et absolue sur ce qui a été gagné à la guerre. Ce qui a été gagné à la guerre doit être divisé en propriété absolue entre les différents vainqueurs et le roi n'a aucune prééminence. » Voilà la première phase de l'histoire du vase de Soissons, on reviendra sur la seconde ensuite. Bon, cette description de la communauté germanique par Boulainvilliers permet donc d'expliquer comment ils ont été absolument rétifs, ces Germains, à l'organisation romaine du pouvoir, mais ça permet aussi d'expliquer comment et pourquoi cette conquête de la Gaule peuplée et riche par ce peuple pauvre et peu nombreux a pu malgré tout tenir. Et là encore, comparaison avec l'Angleterre est intéressante. Vous vous souvenez que les Anglais étaient également devant ce problème. Comment se fait-il que 60 000 guerriers normands ont pu arriver à s'installer en Angleterre et tenir? Boulainvilliers a le même problème, mais voilà comment il le résout, lui. Il dit ceci. Si les Francs ont pu en effet tenir dans cette guerre, dans cette terre conquise, c'est qu'ils ont pris pour première précaution de ne pas donner, non seulement de ne pas donner d'armes, mais de confisquer les armes des Gaulois, de manière à ce que demeure bien isolée au milieu du pays une certaine caste militaire nettement différenciée des autres. Caste militaire qui est une caste entièrement germanique. Les Gaulois n'ont plus d'armes, mais en revanche, on va leur laisser l'occupation réelle de leur terre, puisque précisément les Germains, eux, ne vont pas avoir d'autre, ou les Francs ne vont pas avoir d'autre occupation que de se battre. Donc, les uns se battent, les autres restent sur leur terre, cultivent leur terre, et on leur demande simplement une certaine, des, certaines redevances qui doivent permettre aux Germains d'assurer leur fonction militaire. Redevances qui, certes, ne sont pas légères, mais sont beaucoup moins lourdes, cependant, que les impôts que les Romains essayaient de prélever. Beaucoup moins lourdes parce que quantitativement, c'était moins important, et surtout parce que quand les Romains, pour leurs mercenaires, demandaient un impôt en monnaie aux paysans, les paysans ne pouvaient pas donner cette monnaie. Maintenant, on ne demande que des redevances en nature, on peut toujours les fournir, on peut toujours les fournir, et dans cette mesure-là, entre les paysans gaulois, auxquels on demande simplement des redevances en nature et cette caste guerrière, il n'y a plus d'hostilité. Et on a donc ainsi une sorte de Gaule franque heureuse, stable, beaucoup moins pauvre que n'était la Gaule romaine à la fin de l'occupation romaine. Les uns en face des autres, Gaulois et Francs, furent, dit Boulainvilliers, heureux par la possession tranquille de ce qu'ils savaient, de ce qu'ils avaient. Le Franc par l'industrie du Gaulois, et celui-ci par la sécurité que le premier lui procurait. On a là l'espèce de noyau de ce que Boulainvilliers, vous savez, a inventé, c'est-à-dire la féodalité. La féodalité, comme système historico-juridique caractérisant la société, les sociétés européennes depuis le 6e, 7e, 8e siècle, jusqu'au 15e siècle à peu près, ce système de la féodalité n'avait été isolé ni par les historiens, ni par les juristes, avant les analyses de Boulainvilliers. C'est ce bonheur d'une caste militaire soutenue et entretenue par une population paysanne qui lui verse des redevances en nature, c'est ce bonheur qui est en quelque sorte le climat de cette unité juridico-politique de la féodalité. Bon. Je passe sur plusieurs détails. Oh là là, ça va. Bon, troisième, si vous voulez, troisième ensemble de faits que Boulainvilliers analyse et que je voudrais également isoler parce qu'ils sont, je crois, importants, c'est la série des faits par lesquels cette noblesse, enfin cette aristocratie guerrière plutôt, ainsi installée en Gaule, a pu finalement perdre l'essentiel de son pouvoir et de sa richesse et se trouver au bout du compte bridée par le pouvoir monarchique. L'analyse que fait Boulainvilliers est à peu près la suivante. Il dit ceci. Le roi des Francs était donc au départ un roi de double conjoncture, en ce sens que, en tant que chef de guerre, il n'avait été désigné que pendant le temps de la guerre, son caractère absolu par conséquent, caractère absolu de son pouvoir, ne valait que autant que durait la guerre elle-même, et d'autre part, en tant que magistrat civil, il n'appartenait pas nécessairement à une seule et même dynastie, aucun droit de succession, il fallait qu'il soit élu. Bon, or, c'est ce souverain de double, ce monarque de double chef, de double conjoncture, qui va petit à petit devenir ce monarque permanent, héréditaire et absolu, que la plupart des monarchies européennes, en particulier la monarchie française, ont connu. Comment s'est fait la transformation? Eh bien, elle s'est fait d'abord par le fait même de la conquête. Par le fait même de la conquête, par le succès militaire lui-même, par le fait qu'une armée et une armée peu nombreuse s'était implantée dans un pays immense et dont on pouvait supposer, à l'origine au moins, qu'il serait rétif. Il est donc normal que l'armée franque soit restée en quelque sorte sur pied de guerre dans cette Gaule qu'elle venait occuper, et du coup, celui qui n'était que chef de guerre pendant la durée de la guerre est resté, par le fait de l'occupation, est resté à la fois chef de guerre et chef civil. L'organisation militaire se maintient donc par le fait même de l'occupation. Elle se maintient, mais non sans problème, non sans difficulté, non sans révolte de la part justement des francs, des guerriers francs qui n'acceptent pas que la dictature militaire en quelque sorte se prolonge jusque dans la paix. Ce qui fait que le roi, pour maintenir son pouvoir, a été obligé de quoi faire? Eh bien, lui aussi, à nouveau, de faire appel à des mercenaires. Des mercenaires qu'il va prendre où? Eh bien, précisément, dans ce peuple gaulois qu'on aurait dû laisser désarmer, ou encore de l'étranger. En tout cas, voilà que l'aristocratie guerrière va commencer à se trouver coincée entre un pouvoir monarchique qui essaie de maintenir son caractère absolu, et puis un peuple gaulois qui est appelé petit à petit par le monarque lui-même à soutenir son pouvoir absolu. C'est là qu'on rencontre le second épisode du vase de Soissons. C'est le moment où, vous savez, Clovis, qui n'avait pas encaissé l'interdiction qui lui avait été faite de toucher au vase, que Clovis, passant une revue militaire, reconnaît le guerrier qu'il avait empêché de mettre la main sur le dit vase, et prenant sa grande hache, le bon Clovis casse le crâne au guerrier en lui disant « Souviens-toi du vase de Soissons ». On a là exactement le moment où celui qui ne devait être qu'un magistrat civil, Clovis, maintient la forme militaire de son pouvoir, même pour régler la question civile. Il se sert justement d'une revue militaire, c'est-à-dire d'une forme qui manifeste le caractère absolu de son pouvoir, il s'en sert pour régler quoi? Pour régler un problème qui ne devrait être qu'un problème civil. Le monarque absolu naît donc au moment où la forme militaire du pouvoir et de la discipline se met à organiser le droit civil. Bon, mais la seconde opération plus importante par laquelle le pouvoir civil va prendre la forme absolue et celle-ci. D'un côté, donc, le pouvoir civil fait appel au peuple gaulois pour former des mercenaires. Mais une autre alliance se constitue, qui est cette fois l'alliance entre le pouvoir royal et l'ancienne aristocratie gauloise. Voilà comment Boulainvilliers fait son appel. Il dit, au fond, quand les Francs sont arrivés, qu'ils ont été chez les Gaulois, les couches de population qui ont le plus souffert. Non pas tellement donc les paysans qui, au contraire, ont vu leurs impôts en monnaie se transformer en redevances en nature, mais ça a été l'aristocratie gauloise, dont les terres ont été, bien entendu, confisquées par les guerriers germaniques et francs. C'est cette aristocratie qui s'est trouvée effectivement dépossédée. Elle en a souffert, et qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, il ne lui restait plus qu'un seul refuge, puisqu'elle n'avait plus ses terres, puisque l'État romain avait lui-même disparu, elle avait un seul abri qui était l'Église. Et c'est ainsi que l'aristocratie gauloise s'est réfugiée dans l'Église, elle a développé l'appareil de l'Église, non seulement elle a développé l'appareil de l'Église, mais là, à travers l'Église, eh bien, d'une part, elle a enfoncé, étendu son influence sur le peuple par tout le système des croyants qu'elle faisait circuler. Elle y a également dans l'Église développé ses connaissances de latin, et troisièmement, elle y a cultivé le droit romain. Ce droit romain qui était un droit de forme absolutiste, de sorte que, tout naturellement, lorsque les souverains francs ont eu, d'une part, à s'appuyer sur le peuple contre l'aristocratie germanique, et d'autre part, à fonder un État, ou en tout cas une monarchie de type romain, quels alliés meilleurs pouvaient-ils trouver que ces gens qui avaient tant d'influence sur le peuple d'une part, et qui d'autre part, avec le latin, connaissaient si bien le droit romain? C'est tout naturellement les aristocrates gaulois, la noblesse gauloise réfugiée dans l'Église, qui devient l'allié naturel des nouveaux monarques au moment même où ils essaient de constituer leur absolutisme. Et c'est ainsi que l'Église, le latin, le droit romain, la pratique judiciaire est devenue la grande alliée de la monarchie absolue. Il y a chez Boulainvilliers, vous le voyez, tout un sort important qui est fait à ce qu'on pourrait appeler la langue savoir, le système langue savoir. Il montre comment s'est fait tout un court-circuitage de l'aristocratie guerrière par une alliance entre la monarchie et le peuple par le biais de l'Église, du latin et de la pratique du droit. Le latin est devenu langue d'État et langue de savoir et langue juridique. Et si la noblesse a perdu précisément son pouvoir, c'est dans la mesure où elle appartenait à un autre système linguistique. La noblesse parlait les langues germaniques, elle ne connaissait pas le latin. De sorte que tout le nouveau système de droit qui était en train de se mettre en place à ce moment-là, et qui se mettait en place par des ordonnances en latin, eh bien la noblesse ne comprenait même pas ce qui lui arrivait. Et elle le comprenait si peu, et il était si important qu'elle ne le comprenne pas, que justement l'Église d'une part et le roi de l'autre ont fait tout leur possible pour que la noblesse reste ignorante. Et Boulainvilliers fait toute une histoire de l'éducation de la noblesse en montrant que si l'Église, par exemple, a tellement insisté sur la vie de l'au-delà comme étant la seule raison d'être du monde d'ici-bas, c'est essentiellement pour faire croire aux gens qu'elle éduquait que, en fait, rien de ce qui se passait ici n'était important et que l'essentiel de leur destin devait se passer de l'autre côté. Et c'est ainsi que ces Germains, si avides de posséder et de dominer, c'est ainsi que ces grands guerriers blonds, si attachés au présent, petit à petit, ont été transformés en personnes type chevalier, type croisé, qui négligeaient entièrement ce qui se passait sur leur propre terre et dans leur propre pays, et se sont retrouvés dépossédés de leur fortune et de leur pouvoir. Les croisades, comme grand cheminement vers l'au-delà, sont pour Boulainvilliers l'expression, la manifestation de ce qui s'est passé lorsque cette noblesse a donc été entièrement tournée vers le monde de l'au-delà, cependant que dans l'Ansa, c'est-à-dire sur leur terre même, au moment où ils étaient à Jérusalem, qu'est-ce qui se passait? Le roi, l'Église, l'ancienne aristocratie gauloise manipulaient ces lois en latin qui devaient les déposséder de leur terre et de leurs droits. D'où appel de Boulainvilliers à quoi? Essentiellement, et ça, ceci parcourt toute son œuvre, eh bien, non pas justement comme c'était le cas, par exemple, chez les historiographes parlementaires ou surtout populaires anglais du XVIIe siècle, appelle non pas d'abord à la révolte pour ces nobles ainsi dépossédés de leurs droits. Ce à quoi la noblesse est conviée, mais c'est essentiellement à la réouverture du savoir, réouverture de sa propre mémoire, prise de conscience, récupération de la connaissance et du savoir. C'est à cela que Boulainvilliers convie en première instance la noblesse. Vous ne récupérerez pas le pouvoir si vous ne récupérez pas le statut de savoir dont vous avez été dépossédé, ou plutôt que vous n'avez jamais cherché à posséder, car en fait, vous vous êtes toujours battu sans vous rendre compte qu'à partir d'un certain moment, la vraie bataille, à l'intérieur au moins de la société, ne passait plus par les armes, mais passait par le savoir. Nos ancêtres, dit Boulainvilliers, se sont fait une vanité capricieuse d'ignorer ce qu'ils étaient. Il y a eu un oubli perpétuel de soi-même qui semble tenir de l'imbécilité ou de l'enchantement. Donc, reprendre conscience de soi, déceler les sources du savoir et de la mémoire, ça veut dire dénoncer toutes les mystifications de l'histoire, et c'est en reprenant conscience de soi, en se réinsérant dans la trame du savoir, que la noblesse pourra à nouveau redevenir une force. Se poser comme sujet de l'histoire, se poser comme une force dans l'histoire, implique donc, pour première phase, reprendre conscience de soi et se réinscrire dans l'ordre du savoir. Bon, voilà, si vous voulez, un certain nombre de thèmes que j'ai isolés dans les œuvres considérables de Boulainvilliers et qui me paraissent introduire un type d'analyse qui va être évidemment fondamental pour toutes les analyses historico-politiques qu'on va trouver depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nous. Importance de ces analyses, pourquoi ? Bien sûr, d'abord, et jusqu'à un certain point, ce sont des analyses importantes parce que vous voyez le primat général qui y est accordé à la guerre. Mais je crois que ce qui est important, surtout plus que le primat accordé à la guerre dans ces analyses, c'est la forme que prend dans ces analyses le rapport de guerre. Ce qui est important, c'est le rôle que Boulainvilliers fait jouer à ce rapport de guerre. Car je crois que pour utiliser comme il le fait la guerre comme analyseur général de la société, Boulainvilliers fait subir trois généralisations successives ou superposées à la guerre. Il la généralise par rapport au fondement du droit. Deuxièmement, il la généralise par rapport à la forme de la bataille. Troisièmement, il la généralise par rapport au fait de l'invasion et à cet autre fait réciproque de l'invasion qu'est la réponse. C'est ces trois généralisations que je voudrais maintenant repérer. Premièrement, généralisation de la guerre par rapport au droit et au fondement du droit. Dans les analyses précédentes, celles du XVIIe siècle, si vous voulez, qu'on trouve en tout cas soit chez les protestants, soit chez les parlementaires français du XVIIe siècle, soit chez les parlementaires anglais de la même époque, bon, la guerre, qu'est-ce que c'est ? La guerre, c'est cette espèce d'épisode de rupture qui suspend le droit et le bouleverse. La guerre, c'est le passeur qui permet d'aller d'un système de droit à un autre. Chez Boulainvilliers, la guerre ne joue pas ce rôle-là. La guerre n'interrompt pas le droit. La guerre, en fait, recouvre entièrement le droit et recouvre même entièrement le droit naturel au point de le rendre irréel, abstrait et en quelque sorte fictif. Que la guerre ait recouvert entièrement le droit naturel au point que le droit naturel ne soit plus qu'une abstraction inéquitable, Boulainvilliers en donne trois preuves. Si vous voulez, il met cette idée en œuvre de trois façons. D'abord, sur le mode historique. Il dit ceci. On peut parcourir l'histoire autant qu'on veut et dans tous les sens. De toute façon, on ne trouvera jamais de droit naturel. Dans aucune société, quelle qu'elle soit, pas de droit naturel. Ce que les historiens croyaient découvrir, par exemple, chez les Saxons ou chez les Celtes, une sorte de petite plage, de petits îlots de droit naturel, tout ça, c'est absolument faux. Partout, on ne trouve que quelque chose qui est ou bien la guerre elle-même. Sous les Français, il y a eu l'invasion des Francs. Sous les Gallo-Romains, il y a eu l'invasion des Romains. Soit encore des inégalités qui traduisent des guerres et des violences. C'est ainsi que les Gaulois, par exemple, étaient déjà divisés entre aristocrates et non-aristocrates. Chez les Mèdes, chez les Perses, vous trouvez également une aristocratie et un peuple qui prouvent à l'évidence qu'il y a eu derrière cela lutte, violence et guerre. Et d'ailleurs, chaque fois que l'on voit ces différences entre aristocratie et peuple s'atténuer dans une société ou dans un État, on peut être sûr que l'État va entrer en décadence. La Grèce et Rome ont perdu leur statut et ont même disparu comme État dès lors que leur aristocratie entrait en décadence. Donc, partout des inégalités, partout des violences fondant les inégalités, partout des guerres, il n'y a pas de société qui ne tienne, qui puisse tenir sans cette espèce de tension belliqueuse entre une aristocratie et une masse populaire. Mise en œuvre théorique maintenant de cette même idée, c'est celle-ci. Boulainvilliers dit, on peut bien sûr concevoir une sorte de liberté primitive avant toute domination, tout pouvoir, toute guerre, toute servitude. Mais cette liberté qu'on peut concevoir entre individus qui n'auraient entre eux aucun rapport de domination, cette liberté où tout le monde serait, où tous les gens seraient égaux les uns par rapport aux autres, ce couple liberté-égalité ne peut être en réalité que quelque chose sans force et sans contenu. Parce que qu'est-ce que c'est que la liberté ? La liberté, ça ne consiste pas, bien sûr, à s'empêcher d'empiéter sur la liberté des autres, car à ce moment-là, ça ne serait plus une liberté. Ce en quoi consiste la liberté ? La liberté, ça consiste à pouvoir prendre, à pouvoir s'approprier, à pouvoir profiter, à pouvoir commander, à pouvoir obtenir l'obéissance. Le premier critère de la liberté, c'est de pouvoir priver les autres de la liberté. En quoi consisterait concrètement le fait d'être libre si on ne pouvait pas justement empiéter sur la liberté des autres, qui est la première expression de la liberté. La liberté, pour Boulainvilliers, c'est donc exactement le contraire de l'égalité. C'est le contraire de l'égalité, c'est ce qui va s'exercer par la différence, par la domination, par la guerre, par tout un système de rapport de force, une liberté qui ne se traduit pas dans un rapport de force inégalitaire, ne peut être qu'une liberté abstraite, impuissante et faible. De là, si vous voulez, une espèce de mise en œuvre à la fois historique et théorique de cette idée, et qui est celle-ci. Boulainvilliers, là encore je schématise beaucoup, dit « Admettons que le droit naturel ait existé effectivement à un moment donné, en quelque sorte au moment fondateur de l'histoire. Un droit naturel où les gens seraient libres d'une part et égaux. La faiblesse de cette liberté est telle, puisque précisément c'est une liberté abstraite, fictive, sans contenu effectif, la faiblesse de cette liberté est telle qu'elle ne peut que disparaître devant la force historique d'une liberté qui fonctionne comme inégalité. Et si donc il est vrai qu'il a existé quelque part ou en un temps quelconque quelque chose comme cette liberté naturelle, comme cette liberté égalitaire, comme ce droit naturel, ils n'ont pas pu résister à la loi de l'histoire qui fait que la liberté n'est forte, n'est vigoureuse et n'est pleine que si c'est la liberté de quelques-uns assurée aux dépens des autres. Que si il y a une société qui garantit l'inégalité essentielle. Donc, la loi égalitaire de la nature est faible en face de la loi inégalitaire de l'histoire. Il est donc normal que la loi égalitaire de la nature ait cédé le pas et définitivement à la loi inégalitaire de l'histoire. C'est parce qu'il était le droit originaire que le droit naturel, et non pas fondateur, comme dit les juristes, mais forclos, et forclos précisément par la vigueur plus grande de l'histoire. La loi de l'histoire est toujours plus forte que la loi de la nature. Et c'est cela que Boulainvilliers dit lorsqu'il dit finalement que l'histoire est arrivée à créer une loi naturelle d'antithèse entre la liberté et l'égalité,
et que cette loi naturelle est plus forte que la loi inscrite dans ce qu'on appelle le droit naturel. La force plus grande de l'histoire par rapport à la force de la nature, c'est cela qui finalement fait que l'histoire a recouvert entièrement la nature. La nature ne peut plus parler quand l'histoire commence, car dans la guerre entre l'histoire et la nature, c'est toujours l'histoire qui l'emporte. Il y a un rapport de force entre droit, entre nature et histoire, et ce rapport de force est définitivement en faveur de l'histoire, dont le droit naturel n'existe pas. Où il n'existe que comme vaincu. Il est toujours le grand vaincu de l'histoire. Il est l'autre, il est comme les Gaulois en face des Romains, comme les Gallo-Romains en face des Germains. L'histoire, c'est la germanité, si vous voulez, par rapport à la nature. Bon. Donc, première généralisation, la guerre recouvre entièrement l'histoire au lieu d'en être simplement la bousculade et l'interruption. Deuxième généralisation, c'est la généralisation de la guerre par rapport à, si vous voulez, la forme de la bataille. Bon, pour Moulin-Villiers, il est vrai que la conquête, l'invasion, la bataille gagnée ou perdue fixent bien un rapport de force. Mais en fait, ce rapport de force qui s'exprime dans la bataille, ce rapport de force, au fond, il a été établi avant. Il a été établi avant par autre chose que des batailles antécédentes. Ce qui établit le rapport de force, c'est ce qui fait en gros qu'une nation va gagner une bataille et l'autre la perd, c'est quoi? Eh bien, c'est la nature et l'organisation des institutions militaires. C'est l'armée, c'est les institutions militaires qui sont importantes, d'une part parce qu'elles permettent bien sûr de remporter une victoire, et aussi parce qu'elles permettent d'articuler la société tout entière. Au fond, pour Boulainvilliers, ce qui est important, et ce qui va faire en effet que la guerre va être le principe d'analyse d'une société, c'est que ce qui est déterminant pour lui dans une organisation sociale, eh bien, c'est le problème de l'organisation militaire, ou plus simplement encore, tout simplement, qui possède les armes. L'organisation des Germains, elle repose essentiellement sur le fait que certains, les Leudes, avaient les armes et que les autres n'en avaient pas. Ce qui caractérise le régime de la Gaule-Franque, eh bien, c'est qu'on a pris soin de retirer leurs armes aux Gaulois et de les réserver aux Germains, lesquels Germains devaient être entretenus en tant que d'armes par les Gaulois. Et les altérations ont commencé à se produire lorsque cette loi de répartition des armes dans une société ont commencé à se brouiller, lorsque les Romains ont fait appel à des mercenaires, lorsque les rois de France ont organisé des milices, lorsque Philippe Auguste a fait appel à des chevaliers étrangers, etc. C'est à partir de ce moment-là que l'organisation simple qui permettait aux Germains et aux Germains seuls ou à l'aristocratie guerrière de posséder des armes a été brouillée. Or, ce problème de la possession des armes, et c'est en ce sens qu'il peut servir de point de départ à une analyse générale de la société, c'est que ce problème des armes, d'une part, il est lié bien sûr à des problèmes techniques. Par exemple, qui dit chevalier, dit lance, armure lourde, etc., dit également une armée peu nombreuse de gens riches. Qui dit au contraire archer, armure légère, va dire au contraire armée nombreuse. Or, à partir de là, on voit se profiler toute une série de problèmes économiques et institutionnels. S'il y a une armée de chevaliers, une armée lourde et peu nombreuse de chevaliers, alors les pouvoirs du roi sont forcément limités, car un roi ne peut pas se payer l'armée si coûteuse des chevaliers. Ce sont les chevaliers eux-mêmes qui sont obligés de s'entretenir, donc le pouvoir du roi est forcément limité si on a une armée peu nombreuse de chevaliers. En revanche, avec une armée de fantassins, on a une armée nombreuse que les rois peuvent se payer, d'où accroissement du pouvoir royal, mais en même temps augmentation de la fiscalité. Donc vous voyez que la guerre, mais cette fois non plus simplement comme fait de l'invasion qui laisserait sa marque sur un corps social, mais la guerre, par le relais des institutions militaires, se trouve avoir des effets, et des effets généraux, sur l'ordre civil tout entier. Ce qui sert d'analyseur, par conséquent, à la société, ce n'est plus simplement l'espèce de dualité simple envahisseur-envahi, vainqueur-vaincu, souvenir de la bataille d'Hastings ou souvenir de l'invasion des Francs. Ce n'est plus ça. C'est ce mécanisme binaire simple qui va marquer du sceau de la guerre le corps social tout entier. Mais c'est une guerre prise au-delà de la bataille, au-delà et en deçà de la bataille. La guerre prise comme manière de faire la guerre, comme manière de préparer et d'organiser la guerre. La guerre entendue comme répartition des armes, nature des armes, technique de combat, recrutement, rétribution des soldats, impôts afférents à l'armée. La guerre comme institution interne et non plus comme événement brut de la bataille, c'est cela qui, dans les analyses de Bounavilliers, est opérateur. S'il arrive à faire l'histoire de la société française, c'est en tenant perpétuellement ce fil qui, derrière la bataille, fait apparaître, ou derrière l'invasion, fait apparaître l'institution militaire, et au-delà de l'institution militaire, l'ensemble des institutions et de l'économie du pays. La guerre, c'est une économie générale des armes, une économie des gens armés et des gens désarmés dans un état donné et avec toutes les théories institutionnelles et économiques qui en dérivent. C'est cette formidable généralisation de la guerre par rapport à ce qu'elle était encore chez les historiens du XVIIe siècle qui, évidemment, donne à Bounavilliers la dimension importante que j'essaie de vous montrer. Enfin, troisième généralisation de la guerre dans l'analyse de Bounavilliers, c'est une généralisation, non pas par rapport au fait de la bataille, mais par rapport, disons, au système invasion-révolte, qui étaient les deux grands éléments que l'on faisait jouer pour retrouver la guerre dans les sociétés, comme par exemple ce qu'on trouve dans la historiographie anglaise du XVIIe siècle. Le problème de Bounavilliers n'est donc pas simplement de retrouver... Quand il y a eu invasion, quels ont été les effets de l'invasion? Ça ne consiste pas non plus simplement à montrer s'il y a eu ou non révolte, mais ce qu'il veut faire, c'est montrer comment un certain rapport de force qui avait été manifesté par l'invasion et la bataille, comment ce rapport de force s'est petit à petit et obscurément inversé. Le problème des historiographes anglais, c'était de retrouver partout dans toutes les institutions où étaient les forts, les Normands, et où étaient les faibles, les Saxons. Le problème de Bounavilliers, c'est de savoir comment donc les forts sont devenus faibles et comment est-ce que les faibles sont devenus forts. C'est ce problème du passage de la force à la faiblesse et de la faiblesse à la force qui va constituer l'essentiel de son analyse. Et cette analyse du changement, description du changement, Il va la faire d'abord à partir de ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, la détermination des mécanismes internes de renversement, mécanismes internes de renversement dont on peut trouver facilement des exemples. Par exemple, ce qui a donné à l'aristocratie franque sa force tout à fait au début de ce qu'on appellera bientôt le Moyen Âge, c'était quoi ? C'était le fait que, ayant envahi, ayant occupé la Gaule, ils s'étaient attribués eux-mêmes et directement des terres, ils étaient donc directement propriétaires de terres, et ils touchaient pour cela des revenus en nature qui assuraient d'une part le calme de la population paysanne et d'autre part la force même de la chevalerie. Or, c'est précisément cela, c'est-à-dire ce qui faisait leur force, qui petit à petit va devenir le principe de leur faiblesse, c'est-à-dire que cette dispersion des nobles sur leur terre, le fait que, entretenu pour faire la guerre par le système des redevances, eh bien, ils ont été d'une part écartés de la proximité avec ce roi qu'ils avaient créé, et d'autre part, ils ne se sont occupés que de la guerre entre eux, et par conséquent, ils ont négligé tout ce qui pouvait être l'éducation, l'instruction, l'apprentissage du latin, la connaissance des choses, le principe de leur impuissance. Inversement, si vous prenez l'exemple de l'aristocratie gauloise, au début de l'invasion franque, elle était au dernier degré de la faiblesse, chassée de ses terres, dépossédée de tout. Et c'était cela précisément, cette faiblesse, qui historiquement est devenue leur force par un développement nécessaire. Le fait d'être chassés des terres les a donc renvoyés vers l'Église. Les renvoyant vers l'Église, cela leur a donné une influence sur le peuple, mais également des connaissances de droit, je ne reviens pas sur l'analyse. Et petit à petit, c'est cela qui les a mis en position d'être au plus près du roi, comme conseiller du roi, et par conséquent de remettre la main sur un pouvoir politique et sur une richesse économique qui leur avait échappé autrefois. La forme, les éléments qui constituaient la faiblesse de l'aristocratie gauloise, ces éléments ont été en même temps, et à partir plutôt d'un certain moment, le principe de son renforcement. Donc le problème que Boulainvilliers analyse, ce n'est donc pas qui a été vainqueur et qui a été vaincu, mais qui est devenu fort et qui est devenu faible, pourquoi le fort est devenu faible, pourquoi le faible est devenu fort. C'est-à-dire que l'histoire apparaît maintenant comme étant essentiellement un calcul de force. Un calcul de force qui, dans la mesure même où il va savoir, description des mécanismes, des rapports de force, cette analyse des mécanismes de force, vont nécessairement amener à quoi? Eh bien, à ce que la grande dichotomie simple vainqueur-vaincu ne va plus être exactement pertinente pour la description de tous ces processus. À partir du moment où le fort devient faible, à partir du moment où le faible se renforce, eh bien, il va y avoir de nouvelles oppositions, de nouveaux clivages, de nouvelles répartitions. Les faibles vont s'allier entre eux, les forts vont rechercher l'alliance de certains contre certains autres, etc. Et ce qui était encore à l'époque des invasions une espèce de grande bataille massive, armée contre armée, francs contre gaulois, normands contre saxons, eh bien ces deux espèces de grosses masses nationales, si vous voulez, vont se diviser, se transformer par des canaux multiples et vont apparaître alors des luttes diverses avec des renversements de front, des alliances conjoncturelles, des regroupements plus ou moins permanents, alliance du pouvoir monarchique avec l'ancienne noblesse gauloise, appui de cet ensemble sur le peuple, rupture de l'entente tacite entre les guerriers francs et les paysans gaulois lorsque les guerriers francs appauvris vont augmenter leurs exigences et demander des redevances plus élevées, etc. Tous ces systèmes d'appui, d'alliance, de conflits internes, c'est cela maintenant qui va en quelque sorte généraliser une forme de guerre que les historiens, jusqu'au XVIIe siècle, avaient encore conçu essentiellement sur le mode du grand affrontement de l'invasion. Jusqu'au XVIIe siècle, la guerre, c'était bien essentiellement la guerre d'une masse contre une autre masse. Boulainvilliers, lui, fait pénétrer le rapport de guerre dans tout le rapport social, va le subdiviser par mille canaux divers et va faire apparaître la guerre comme une sorte d'état permanent entre des groupes, des fronts, quelque sorte des unités tactiques qui se subdivisent les unes les autres, s'opposent les unes les autres ou au contraire s'allient les unes avec les autres. Il n'y a plus ces grandes masses stables et monolithiques. Il va y avoir une guerre multiple, en un sens, une guerre de tous contre tous. Une guerre de tous contre tous n'est plus du tout, évidemment, en ce sens abstrait et, je crois, irréel que Hobbes donnait lorsqu'il parlait de la guerre de tous contre tous. J'essayais de vous montrer comment ce n'est pas la guerre de tous contre tous qui est opératrice à l'intérieur du corps social. Chez Hobbes, au contraire, chez Boulainvilliers, on va avoir une guerre généralisée. Une guerre généralisée qui va parcourir à la fois tout le corps social et toute l'histoire du corps social, mais non pas évidemment comme guerre des individus contre les individus, mais comme guerre des groupes contre les groupes. Et c'est cette généralisation de la guerre qui est, je crois, caractéristique de la pensée de Boulainvilliers. Bon. Je voudrais terminer, si vous me donnez encore quelques minutes, en vous disant ceci. Cette triple généralisation de la guerre mène à quoi? Elle mène, je crois, à ceci. C'est que, grâce à cela, Boulainvilliers est arrivé là où les historiens du droit, enfin ces historiens qui racontaient l'histoire à l'intérieur du droit, à l'intérieur du droit public, à l'intérieur de l'État, pour eux, la guerre, c'était donc essentiellement la rupture du droit, l'énigme, l'espèce de masse sombre ou d'événement brut qu'il fallait bien prendre comme il était, et qui n'était non seulement pas principe d'intelligibilité, il n'en était pas question, il était au contraire principe de rupture. Là, au contraire, c'est la guerre qui va précipiter une sorte de grille d'intelligibilité dans la rupture même du droit, et qui va donc permettre de déterminer le rapport de force qui soutient en permanence un certain rapport de droit. Et Boulainvilliers va ainsi pouvoir intégrer ces événements qui n'étaient autrefois que violents et donnés dans leur massivité. Il va pouvoir les intégrer, ces guerres, ces invasions, ces changements, etc., dans toute une nappe de continu de processus qui recouvre la société tout entière, puisque ça touche, vous avez vu, au droit, à l'économie, à la fiscalité, à la religion, aux croyances, à l'instruction, à la pratique de la langue, aux institutions politiques. L'histoire, à partir du fait même de la guerre, et à partir de l'analyse que l'on fait en termes de guerre, va pouvoir mettre en relation toutes ces choses, guerre, religion, politique, mœurs et caractère, et va donc être un principe d'intelligibilité de la société. C'est la guerre qui rend la société intelligible chez Boulainvilliers. Et je pense, c'est à partir de là, dans tout le discours historique. Cette grille d'intelligibilité, quand j'en parle, je ne peux pas dire, bien sûr, que ce qu'a dit Boulainvilliers est vrai. On peut même, vraisemblablement, démontrer que tout ce qu'il a dit, pièce à pièce, est faux. Simplement, je dirais qu'on peut le démontrer. Alors que, quand il s'agissait du discours, par exemple, qui était tenu au XVIIe siècle, sur les origines troyennes ou sur l'émigration des Francs qui auraient quitté la Gaule à un moment donné sous un certain Séjovès et puis qui seraient revenus ensuite. On ne peut pas dire que ceci relève du régime de vérité ou d'erreur qui est le nôtre. C'est inassignable pour nous en termes de vérité et d'erreur. En revanche, la grille d'intelligibilité posée par Boulainvilliers a instauré, je crois, un certain régime, un certain pouvoir de partage vérité-erreur que l'on peut appliquer au discours de Boulainvilliers lui-même, et qui peut faire dire d'ailleurs que le discours de Boulainvilliers est faux dans son ensemble, est faux dans son détail, et si vous voulez même totalement faux, il n'en reste pas moins que c'est cette grille d'intelligibilité qui a été posé, et je crois posé pour notre discours historique, et c'est à partir d'une intelligibilité de ce type que nous, désormais, nous pouvons dire ce qui est vrai ou faux dans le discours de Boulainvilliers. Ce sur quoi aussi je voudrais insister, c'est que vous voyez en faisant intervenir le rapport de force comme sorte de guerre continue à l'intérieur de la société, Boulainvilliers pouvait récupérer, mais cette fois en termes historiques, tout un type d'analyse que l'on trouvait chez Machiavel. Mais chez Machiavel, le rapport de force était essentiellement décrit comme technique politique à mettre entre les mains du souverain. Désormais, le rapport de force est un objet historique que quelqu'un d'autre que le souverain, c'est-à-dire que quelque chose comme une nation, à la manière de l'aristocratie ou plus tard la bourgeoisie, etc., quelque chose qu'une nation peut repérer et déterminer à l'intérieur de son histoire. Le rapport de force, qui était un objet essentiellement politique, devient maintenant un objet historique, ou plutôt, c'est un objet historico-politique, puisque c'est en analysant ce rapport de force que, par exemple, la noblesse va pouvoir prendre conscience d'elle-même, retrouver son savoir, redevenir une force politique dans le champ des forces politiques. La constitution d'un champ historico-politique le fonctionnement de l'histoire dans la lutte politique a été rendu possible à partir du moment où, dans un discours comme celui de Boulainvilliers, ce rapport de force, qui était en quelque sorte l'objet exclusif des préoccupations du prince, a pu devenir l'objet du savoir pour un groupe, une nation, une minorité, une classe, etc. L'organisation d'un champ historico-politique commence ainsi. Le fonctionnement de l'histoire dans la politique, l'utilisation de la politique comme calcul des rapports de force dans l'histoire, tout ceci se nie ici. Autre remarque encore, c'est que, vous le voyez, on en arrive à cette idée que la guerre a été, au fond, la matrice de vérité du discours historique. Matrice de vérité du discours historique, je veux dire ceci, c'est que, contrairement à ce que la philosophie ou le droit ont voulu faire croire, la vérité ne commence pas, la vérité et le logos ne commencent pas là où c'est la violence, au contraire, c'est lorsque la noblesse a commencé à mener sa guerre politique, à la fois contre le tiers-état et contre la monarchie, c'est à l'intérieur de cette guerre, et en pensant l'histoire comme guerre, que quelque chose comme le discours historique que nous connaissons maintenant a pu s'établir. Enfin, avant-dernière remarque, vous savez qu'il y a un lieu commun qui veut que ce soit les classes en ascension qui portent à la fois les valeurs de l'universel et la puissance de la rationalité. On s'est beaucoup tué à essayer de montrer que c'était la bourgeoisie qui avait inventé l'histoire, puisque l'histoire, tout le monde sait, c'est rationnel, et que la bourgeoisie du XVIIIe siècle, classe montante, portait avec elle et l'universel et le rationnel. Eh bien, je crois qu'on a, quand on regarde un peu les choses de près, l'exemple d'une classe qui, dans la mesure même où elle était en pleine décadence, dessaisit son pouvoir politique et économique, a mis en place une certaine rationalité historique dont la bourgeoisie ensuite, le prolétariat après, se saisiront. Mais je ne dirais pas que c'est parce qu'elle était en décadence que l'aristocratie française a inventé l'histoire. Ce n'est pas parce qu'elle était en décadence, c'est parce qu'elle faisait la guerre. C'est parce qu'elle faisait la guerre qu'elle a pu se donner précisément sa guerre pour objet. La guerre étant à la fois le point de départ du discours, la condition de possibilité pour l'émergence d'un discours historique et le référentiel, l'objet vers lequel se tourne ce discours, étant la guerre étant à la fois ce à partir de quoi parle le discours et ce dont il parle. Enfin, dernière chose, si Clausewitz a pu dire un siècle après Boulainvilliers, et par conséquent deux siècles après les historiographes anglais, si Clausewitz a pu dire un jour que la guerre c'était la politique continuée par d'autres moyens, eh bien c'est qu'il y a eu quelqu'un qui au XVIIe siècle, au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle, a pu dire, montrer et analyser la politique comme étant la guerre continuée par d'autres moyens. Voilà.